Bonjour, nous sommes aujourd'hui au deuxième forum des initiatives pour l'emploi de Bourgoin-Jallieu, organisé par la mairie de Bourgoin-Jallieu et de nombreux partenaires. Aujourd'hui, deux tables rondes vous seront proposées, l'une sur le développement durable, un gisement d'emploi, et une deuxième sur les clés d'un nouveau départ professionnel pour les seniors. Couleur FM, en partenariat avec la mission locale Nord-Isère, Plume Studio, a installé son studio pour l'enregistrement d'une émission sur l'emploi des seniors pour la plateforme ONI TV, le média Nord-Isère de l'orientation du Nord-Isère. Avec nous pour débattre sur ce sujet, Annick Néron, déléguée à l'emploi, l'insertion professionnelle, la formation, l'égalité femmes-hommes et déléguée communautaire à la CAPI. Agnès Rochat, directrice de la MIF, la Maison de l'information sur la formation et l'emploi. Véronique Rebuffo, conseillère Pôle emploi. Et Jean-Louis Sandret, délégué Nord-Isère pour l'association EG Rhône-Alpes. Alors tout d'abord, Annick Néron, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette initiative de la mairie de Bourgoin-Jallieu pour la deuxième année, avec justement des thématiques qui sont assez fortes, puisqu'on a le développement durable et l'emploi des seniors?
Tout d'abord, bonjour, merci de faire le relais pour cette initiative. Alors, ce forum me semblait être une initiative incontournable, c'est effectivement le deuxième. Le premier donc a été réalisé l'an dernier. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, et donc il me semble qu'une ville de 26 000 habitants se doit de mettre le thème de l'emploi donc d'une manière prioritaire. Alors, cette année, j'ai choisi d'aborder deux thèmes, qui sont donc le BTP, le développement durable, et l'emploi donc des seniors. Alors, plus particulièrement par rapport à cette deuxième thématique, c'est un sujet pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'attention. J'ai toujours trouvé profondément injuste cette discrimination par l'âge. C'est un sujet qui me préoccupe depuis les années 2000, et je trouve qu'on est dans une complète incohérence en demandant aux gens de travailler de plus en plus tard et sans pouvoir leur offrir une opportunité d'emploi.
Quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Alors on en débattra tout au long de cette émission, pour que justement on s'est aperçu que les seniors, c'est à partir de 45 ans, c'est encore un très jeune âge pour moi. Quelles sont les solutions, puisqu'on va essayer d'être positif tout au long de cette table ronde, en se disant qu'effectivement les seniors, c'est une véritable richesse pour l'emploi, pour les entreprises et pour tous ceux qui sont en recherche de personnel.
Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, on vit peut-être dans une société qui met en exergue le jeunisme, etc. Mais les choses sont en train d'évoluer d'une manière douce, mais elles évoluent. Et je pense que de plus en plus, les entreprises comprennent la nécessité de garder des compétences, de garder donc des qualités par l'intermédiaire des seniors.
Alors avec nous pour débattre sur cette thématique, alors nous avons Véronique Rebuffo qui est conseillère Pôle emploi. Alors vous, quelle est votre position par rapport justement à cette problématique des seniors, ou qui pourrait ne plus être une problématique justement?
Nous sommes une institution publique qui a pour objectif principal de servir ses usagers, que ce soit les entreprises ou les demandeurs d'emploi. Il est vrai que nous rencontrons tout type de public et qu'en particulier les seniors, on s'en rend bien compte sur le territoire de Bourgoin-Jallieu, rencontrent des difficultés pour retrouver du travail. Nous essayons dans la mesure du possible de les accompagner, de proposer des solutions.
L'agence de Bourgoin-Jallieu, effectivement, a une particularité sur l'emploi des seniors.
Oui, alors, est-ce que c'est une particularité? Nous avons un directeur, M. Philippe Conceau, qui est très sensibilisé à ce public senior et qui souhaite que l'on travaille beaucoup dans ce sens pour aider le retour à l'emploi des seniors. C'est vrai que nous sommes le premier opérateur du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, et que dans ce cadre-là, on accompagne les gens pour la sécurisation de leur emploi, pour leur évolution professionnelle, leur orientation et leur réorientation professionnelle. Mais c'est vrai que notre direction est très, très sensibilisée au public des seniors.
Alors Agnès Rochat, vous êtes directrice de la MIF, la Maison de l'information sur la formation et l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure et à quoi elle sert?
Alors la MIF, Maison d'information sur la formation et l'emploi, est une structure départementale, donc diligentée par la région Rhône-Alpes, cofinancée également par les collectivités locales et territoriales, dont la principale préoccupation est de travailler sur le champ de l'orientation, de la formation, de la sécurisation des parcours, des publics, demandeurs d'emploi et salariés tout au long de la vie. Donc tout au long de la vie professionnelle. Donc nous, comme le disait ma collègue de Pôle emploi, nous intervenons à côté du service public. Nous sommes une mission de service public Et nous intervenons de façon complémentaire sur le conseil en évolution professionnelle, sur le conseil en VAE, le conseil en formation. Nous délivrons des bilans de carrière, des bilans de compétences et nous cheminons avec les publics seniors qui sont des publics prioritaires aussi pour la région qui nous missionne. Dans le cadre de leur accompagnement de parcours et notamment en prévention aussi pour éviter les ruptures de parcours et sécuriser ce parcours. Donc nous les accompagnons autour de phases d'aide à la transition professionnelle pour se réorienter, pour revisiter, explorer leur projet professionnel, travailler sur le repérage de leurs compétences, le transfert de leurs compétences, les aider souvent à faire le deuil aussi d'une précédente expérience professionnelle. Tant du côté des compétences que du côté de le deuil avec l'entreprise aussi dans laquelle ils ont pu intervenir en tant qu'expert ou non pendant de nombreuses années. Donc la MIF a effectivement, et les MIF en général, ont une attention très très particulière et soutenue en direction des populations seniors.
Alors, quels sont les profils des personnes qui viennent vous rencontrer? Comment viennent-elles vous rencontrer? Par quel biais?
Alors ce sont des publics demandeurs d'emploi récemment en rupture d'emploi. La MIF ne répond pas précisément aux publics les plus en difficulté, les plus éloignés de l'emploi, mais plutôt sur en direction de publics qui sont plutôt ou des salariés qu'on dit fragilisés, c'est-à-dire des gens qui peuvent osciller entre des phases de travail intérimaire, de CDD consécutifs, des femmes qui reviennent dans le marché du travail, des publics peu qualifiés qui ont besoin d'accéder à la formation. Donc nous intervenons parce que Pôle emploi nous adresse des publics, parce que l'ensemble des relais emploi nous adresse des publics, et puis parce que les MIF ont aussi une posture dans le paysage des acteurs de l'orientation formation tout au long de la vie dans le cadre du service public régional de l'orientation qui est aujourd'hui mis en œuvre et délégué d'ailleurs aux régions qui acceptent ou pas d'ailleurs d'en prendre le pilotage. Donc nous sur le territoire nous avons la chance d'avoir un partenariat construit déjà depuis longtemps entre nous, mission locale, Pôle emploi, MIF, relais emploi du territoire, et les publics sont dirigés par tous les prescripteurs des services publics qui travaillent dans le champ insertion, emploi, orientation, formation.
Est-ce que vous avez une idée des résultats quand les gens sont passés par chez vous, le retour à l'emploi, est-ce que vous avez effectivement pu les aider? Est-ce que ça...
Pour vous donner un ordre d'idée, nous sur le département, on s'adresse à 2500 personnes, donc on reste sur un volume relativement contenu encore. On accompagne véritablement entre 800 et 1000 personnes dans le cadre d'entretiens et de conseils très individualisés. On va dire qu'on a 30% des populations qui accèdent à la formation, qui accèdent à un bilan de compétences, qui acquièrent une élévation de leurs compétences par la VAE ou par la formation à peu près chaque année.
Alors, autre invité autour de cette table, Jean-Louis Sandré, qui est délégué Nord-Isère de l'association EG Rhône-Alpes. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure?
Oui, EG Rhône-Alpes, c'est une association qui existe depuis 1982 et qui regroupe des retraités qui ont envie de partager leurs compétences dans différents domaines vis-à-vis des entreprises, l'emploi et l'enseignement. Le rôle de EG en Rhône-Alpes, c'est d'apporter un soutien dans ces trois domaines de façon à ce que des conseillers, puisqu'en fait, ces retraités, ils ont envie de passer leurs compétences, ils ont aussi envie de rester actifs pour leur région, et donc ils se mettent à disposition en fonction des capacités qu'ils ont et des compétences qu'ils vont pouvoir transmettre. Je dirais que vis-à-vis de l'emploi des seniors, c'est immédiatement perceptible. Un ancien qui a une longue carrière derrière lui, il le sait reconnaître quel est l'intérêt d'une expérience. Et une expérience, c'est pas simplement une histoire, une expérience, c'est aussi des compétences développées. Partager des compétences, c'est apporter à des plus jeunes des choses que l'on a apprises tout au long de sa vie. Donc ces retraités, ils savent bien identifier ce qu'un senior peut apporter à une entreprise. Donc c'est en fonction un peu de la capacité de chacun, mais nous avons une forte action dans l'emploi, pas seulement finalement vis-à-vis des seniors, aussi vis-à-vis des jeunes, parce que les jeunes, il faut leur apprendre que tout au long de leur vie, ils vont acquérir des compétences.
Ce qui est justement assez paradoxal, c'est que vous êtes des retraités qui allait aider effectivement des jeunes, alors qu'actuellement dans les entreprises, on est en train de sortir les seniors qui auraient pu déjà faire ce travail à l'intérieur de l'entreprise.
Oui, ça c'est toute la difficulté du système aujourd'hui, c'est qu'on imagine que les jeunes apportent des compétences nouvelles et que, je dirais péjorativement, les anciens colportent des choses dépassées, ce qui est totalement faux. S'il y a des technologies nouvelles, c'est que justement des anciens ont jugé nécessaire de les développer. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire passer aux jeunes en leur disant « vous n'allez pas vieillir dans l'entreprise, vous allez acquérir » et aux anciens « vous n'êtes pas exclus du système puisque vous avez développé ce système et donc vous pouvez apporter encore ». Effectivement, c'est la grande difficulté.
Alors, vous avez trois volets, LG. Vous avez donc entreprise, emploi, enseignement. Est-ce que vous pouvez nous les décliner, ces trois volets différents?
En fait, là, on vient en soutien des créateurs. On vient en soutien pour des entreprises qui veulent se développer, principalement des TPE et des PME. Nous ne sommes pas en concurrence avec les grands cabinets de consulting, mais au niveau local... à Bourgoin-Jallieu, par exemple, il y a des tas de commerçants qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour passer une période difficile. On est en période de crise, il faut adapter quelquefois le rythme de l'entreprise, donc on est là pour ça. On est là aussi pour aider des créateurs, des gens en demande d'emploi qui ont envie de créer leur propre entreprise et qui ne savent pas très bien comment la développer. Donc nous sommes là en support. Et nous apportons aussi dans différents domaines un soutien aux entreprises vis-à-vis des réglementations. Dans le domaine de l'emploi, c'est orienté vers les jeunes et les moins jeunes, principalement avec les missions locales, mais aussi avec les réseaux de services publics, avec les relais emploi. Nous sommes présents sur le Pays des Couleurs, nous sommes présents sur Saint-Quentin-Falavier, sur l'île d'Abeau, de façon à apporter au niveau des mairies un support pour l'emploi. Et effectivement, nous intervenons sur un public très très large. Alors nous intervenons beaucoup sur les jeunes, parce que c'est un sujet qui est important aujourd'hui d'aider les jeunes à trouver l'emploi, le premier emploi. Mais je dirais qu'on est très présent aussi maintenant, et on le sent de plus en plus, une demande vis-à-vis des seniors, de façon à ce qu'on puisse les maintenir et leur donner les voies de recherche de leur prochain emploi. Et l'enseignement, eh bien, je dirais que c'est avant tout ça. Les jeunes, ils ont besoin de connaître l'entreprise. Qui est mieux placé qu'un ancien qui a qui a mené une entreprise ou qui a une position de cadre dirigeant, qui a été dans les ressources humaines, pour aller expliquer aux jeunes quel est ce monde de l'entreprise et ce à quoi ils sont exposés. C'est-à-dire peut-être pas la carrière continue dans la même entreprise de leurs parents, mais être flexible et justement bien comprendre que les compétences qu'ils ont acquises à l'école et qu'ils vont acquérir tout au long de leur vie, c'est un package pour justement changer d'orientation dans le futur.
Alors, la passion de transmettre, c'est votre slogan.
Oui.
Comment fait-on pour rejoindre l'association IG si on est un jeune retraité ou plus ancien et qu'on a envie effectivement d'apporter son savoir-faire, son savoir-être?
Eh bien, je dirais que c'est très simple. Il y a un site ig.org. On va sur ce site, on trouve nos coordonnées en fonction de la région où l'on est, parce que nous faisons partie d'un réseau qui est EG national, où la totalité de la France est représentée. En particulier EG Rhône-Alpes, nous sommes 240 conseillers. Sur le Nord-Isère, nous sommes plus de 20. Idéalement, nous voulons être encore plus parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Et donc, vous faites acte de candidature. La seule chose qu'on demande, c'est que les gens soient effectivement retraités. On n'est pas là pour faire du business. On est là pour transmettre.
Quelques chiffres pour définir un petit peu IG?
Alors, au niveau d'IG national, oui, c'est des milliers d'interventions, plus de 50 000 interventions, des centaines de milliers d'heures consacrées à transmettre. Ce dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce sont aussi tous les élèves et les étudiants. Nous travaillons aussi au niveau du supérieur pour promouvoir la création d'entreprises chez les étudiants. Et là, c'est près de 50 000 heures passées auprès d'étudiants à différents niveaux. Et évidemment, nous travaillons au niveau des demandeurs d'emploi. Alors, Je dirais que c'est en fonction des orientations de chaque délégation. Il y en a qui sont plus vers l'emploi, d'autres plus vers l'entreprise. En ce qui concerne Rhône-Alpes, nous sommes très orientés sur l'emploi et globalement en France, il y a près de 10 000 demandeurs d'emploi qui sont passés chez EG. Alors, j'ai pas le chiffre précis de Rhône-Alpes, mais je pense qu'on est aujourd'hui à plus de 1000 personnes qui passent devant des conseillers pour leur recherche d'emploi.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Je croise des soleils aux ardeurs érotiques, avec des cris perdus sur des sourires de femmes, bercés par les étoiles d'une essence romantique. J'ai trop longtemps cherché mes visions dans les flammes. Je veux brûler pour toi, petit. Je veux brûler pour toi la vitesse de la lune autour de nos orbites. N'arrête pas les sanglots froids de l'humanité et l'œil désespéré dans son triangle en quitte semble soudain jaloux de nos fiévreux baisers. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Mais gâche pas mon enfer avec ton paradis. Je veux brûler pour toi, petite. Mais lâche pas tes prières sur mes cris hypocrites. D'aucuns me disent rebelle et d'autres inifugés. Mais mes divagations n'emmerdent plus personne. Je caresse mon corbeau en chantant du ruflé et joue pour les voyous virés de la Sorbonne. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1. Nous sommes aujourd'hui au deuxième forum des initiatives pour l'emploi de Bourgoin-Jallieu, organisé par la mairie de Bourgoin-Jallieu avec de nombreux partenaires. Avec moi autour de cette table, Agnès Rochat, directrice de la MIF, Jean-Louis Sandry, délégué Nord-Isère de l'association EG Rhône-Alpes, Véronique Rebuffo, conseillère Pôle emploi, et Annick Néron, déléguée à l'emploi, à la formation professionnelle, à l'égalité femmes-hommes à Bourgoin-Jallieu et élue communautaire de la CAPI. Alors, ce forum se décline donc tout au long de la journée, de 9h à 17h. On a déjà détaillé un petit peu les deux tables rondes qui auront lieu, mais aussi plein de choses tout au long de la journée, des simulations d'entretien, des retouches de CV, avec justement une nouveauté cette année sur la gestion du stress. Là aussi, c'est important de pouvoir préparer les demandeurs d'emploi justement à ces entretiens qui sont pour certains un véritable stress.
Tout à fait. Alors, lorsque j'ai lancé ce forum, enfin l'idée d'un forum emploi à Bourgoin-Jallieu, je souhaitais vivement que ce ne soit pas simplement un lieu où on récolte des offres, mais où on puisse trouver donc à la fois des services et des conseils, et que le maximum d'organismes, de structures soient présents. Donc, conseil, service. L'année dernière, nous avions déjà mis en place un atelier sur l'image de soi. Alors, tout simplement parce que je pense que tout ce qui précède l'entretien fait sa réussite. L'image de soi, bien sûr, on pense tout de suite à code vestimentaire. On se dit qu'on n'est pas propriétaire de son image et que le plus important, c'est qu'il y ait une cohérence entre l'image qu'on dégage et celle que, voilà, ce que nous sommes réellement. Donc cette année, nous avons ajouté, alors j'oubliais de dire que le partenaire qui anime depuis l'an dernier cet atelier sur l'image de soi, c'est le Greta. Je les remercie. Cette année, nous avons donc un deuxième atelier sur la gestion du stress. Donc la préparation à un entretien est essentielle. C'est une psychologue du département qui intervient sur ce deuxième atelier. Donc il y en aura deux. Donc il y en a deux ce matin, il y en aura deux cet après-midi. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Tout à fait. Vous avez justement de nombreux partenaires pour cet événement. Alors est-ce qu'il est facile ou difficile de convaincre les entreprises de venir à un tel forum ?
Alors, c'était réellement plus difficile l'an dernier parce que c'était le premier forum. Effectivement, jusqu'à présent, il y avait un seul forum de l'emploi dans le Nord-Isère qui était celui de Villefontaine, qui se déroule donc à l'automne. Et donc, mettre en place ce deuxième forum du Nord-Isère au printemps a été effectivement compliqué parce qu'il a fallu créer des liens de confiance avec les entreprises, avec les partenaires qui, jusqu'à présent, n'existaient pas. Moi, je remercie tous les partenaires, toutes les entreprises, parce que tous ont accepté de jouer le jeu. Alors, c'est pas simplement un forum, c'est pas simplement une journée. Il faut savoir, je le redirai, mais c'est environ une trentaine de réunions préparatoires. C'est 40 personnes qui travaillent d'une manière régulière ensemble. C'est un investissement, c'est un gros investissement en termes de temps. Bon, c'est un gros investissement financier pour la mairie, mais pour nos partenaires, y compris les entreprises. C'est un gros investissement au niveau du temps et on sait que le temps est compté, en particulier pour les chefs d'entreprise. Donc lorsque je vois que les grosses entreprises sont présentes comme Chanu, comme Cola, comme toutes les grosses entreprises de Bourgoin-Jallieu et des alentours ont accepté d'être présentes, vraiment je suis contente et je suis aussi très fière de cette réussite.
Alors est-ce que vous avez donc un vivier d'entreprises à Bourgoin-Jallieu ? Qu'en est-il effectivement du taux de chômage ? Quelles sont les difficultés que rencontre la ville de Bourgoin-Jallieu vis-à-vis des demandeurs d'emploi ? Est-ce que vous avez plus de jeunes, plus de seniors ? Est-ce que vous avez déjà fait une analyse des demandeurs d'emploi ?
Alors, nous travaillons en étroite collaboration avec Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu, donc qui reprendra le fil de cette conversation. Effectivement, nous apportons donc notre contribution par rapport à il y a une situation qui est assez délicate. Nous avons énormément de seniors demandeurs d'emploi. Et on sait, alors là, c'est pas propre à Bourgoin-Jallieu, mais c'est accentué à Bourgoin-Jallieu. On sait qu'en fait, les seniors s'installent plus durablement dans le chômage. Et là, on arrive, je crois, notre partenaire Pôle emploi pourra le préciser, nous arrivons à environ 40 mois maximum de durée de chômage pour un senior. Moi, ce qui m'a toujours frappé et ce qui me semble terriblement injuste, c'est que beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour juguler le chômage des jeunes. Et jusqu'à présent, finalement, les différents gouvernements, quels qu'ils soient, n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour l'emploi des seniors. Donc ça, alors on parle, il y a des missions locales pour les jeunes, mais on n'a pas finalement d'organisme équivalent pour les seniors. Alors quand je le dis, parfois ça fait sourire, mais quand je parle des seniors, ça fait aussi sourire. Et effectivement, quand je dis qu'on peut être senior à 47 ans, il y a des sourires qui s'éteignent. Et je pense que si on regarde, si on écoute certaines émissions, si on regarde ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que la plupart des dirigeants, la plupart des politiques ont largement dépassé la cinquantaine, comme quoi on est toujours bon et on est toujours indispensable après 50 ans.
Effectivement, surtout si on part du principe qu'on est senior à 45 ans, sachant qu'actuellement l'âge moyen de la retraite c'est plutôt 65 ans, il nous reste encore 20 ans de carrière.
Absolument. 20 ans de carrière, c'est très très long. Donc comment peut-on imaginer ne pas aider ces personnes qui doivent absolument retrouver un emploi? Alors après, on traite la précarité. Moi, je pense qu'il faut travailler en amont de la précarité. Il faut travailler avant. Il faut aider les gens avant qu'ils ne tombent dans de grandes difficultés. Et ça, c'est aussi, je pense, c'est un vrai problème politique qui n'a jamais été réglé. On soigne les catastrophes, mais je pense que, naturellement, on arrive à des résultats qui sont assez médiocres, alors que je pense qu'il faut prendre le problème à la base et voilà, et offrir, ça me semble évident, ça l'était autrefois, alors ça me semble évident, utiliser toutes les compétences, tous les acquis et surtout toutes les qualités. On parle beaucoup de savoir-faire, mais moi je voudrais insister sur le savoir-être, ce que, voilà, les seniors ont un savoir-être qui s'acquiert avec les années.
Alors, je vais laisser rebondir Agnès Rochat, directrice de la MIF Isère. Quelles sont, vous, vos constatations, effectivement, quand vous êtes en rapport avec, justement, ces seniors?
Une des constatations, c'est un peu ce qu'évoque Madame Néron, c'est qu'en effet, beaucoup de personnes perdent confiance en elles, et on le voit notamment pour des publics seniors peu qualifiés, qui effectivement ont travaillé pendant très très longtemps dans la même entreprise et qui n'ont jamais eu l'occasion de se poser pour travailler sur un bilan de compétences, un bilan des acquis, de réfléchir à un projet de formation qui pourrait consolider ces compétences, voire leur permettre de maintenir leur employabilité, voire de développer des compétences et cette employabilité. Et comme le dit Madame Néron, ce que je constate, c'est que la plupart d'entre elles ont travaillé dans des entreprises qui sont souvent des PME ou des TPE qui n'ont pas toujours su mobiliser les droits à la formation des salariés, ce qui explique que les personnes n'aient pas eu l'occasion, dans le cadre d'un entretien, professionnel qui est obligatoire aujourd'hui tous les 2 ans hein, pour les personnes de plus de 45 ans. Et les entreprises vont d'ailleurs avoir des pénalités hein, lorsque, au bout de 6 ans, les entretiens professionnels n'auront pas eu lieu. La loi de démocratie sociale de 2014 rappelle un certain nombre de choses hein, dont on va débattre cet après-midi dans le cadre de la table ronde. Et ce que je constate effectivement, c'est que, et du côté des employeurs qui n'ont pas de service RH, eh bien tous les dispositifs leviers pour travailler en entretien avec les gens et détecter des pertes d'employabilité et des besoins de compétences ne se font pas. Donc il faut à la fois aider les entreprises à pouvoir mobiliser ces dispositifs RH, mais aussi, bien entendu, donner une information aux salariés qu'ils sont acteurs de leur parcours professionnel et qu'ils doivent eux-mêmes solliciter leurs entreprises, employeurs, pour pouvoir mobiliser les droits à la formation et sécuriser leur parcours professionnel. Et comme le disait Madame Néron, je pense qu'on ne doit pas attendre d'être trop âgé et d'avoir travaillé pendant un certain nombre d'années, toujours dans le même emploi, dans la même entreprise, sans évolution, mais que dès 40 ans, même avant, on doit effectivement être acteur de son parcours, anticiper, se mobiliser pour se former, réfléchir sur son employabilité, son éventuelle perte d'employabilité, et essayer de travailler sur la montée en compétences. Et on a aujourd'hui, dans le champ public, des politiques publiques de l'emploi, cette loi de démocratie sociale de janvier 2014, qui nous rappelle un certain nombre de choses, et qui met les employeurs devant des obligations de formation tout au long de la vie, et qui responsabilise aussi les salariés qui deviennent acteurs de leur parcours. Et ça peut être un élément de réponse.
Et surtout que maintenant, on a le compte formation-emploi que chaque salarié doit remplir avec l'aide de son employeur. Alors là, c'est pareil.
Avec l'aide de son employeur ou avec l'aide de structures labellisées pour dispenser du conseil en évolution professionnelle. C'est le cas de Pôle emploi, Véronique Rebuffo le rappelant tout à l'heure.
Alors justement, là aussi, c'est peut-être la manière de pousser les employeurs, mais aussi les employés, à s'emparer de leur formation. Mais, alors là, je mettrais un petit bémol, on a toujours le problème entre, par exemple, les secteurs associatifs, les PME et les grandes entreprises qui bénéficient effectivement de services DRH, qu'il n'y a pas forcément dans les PME et les TPE. Et là, ça peut être un véritable problème, effectivement. Je serais curieuse de savoir si on n'a pas plus de difficultés avec des seniors dans les petites entreprises que dans les multinationales. Est-ce que ce serait un reflet ou pas du tout?
C'est peut-être à ce niveau-là que nous, Pôle emploi, intervenons. et qu'on fait, on est finalement le relais et l'interlocuteur privilégié des petites entreprises, des PME, des PMI qui n'ont pas ces services de RH. On leur permet de rencontrer des personnes, on peut mettre en place des mesures, des aides qui vont favoriser le retour à l'emploi de publics dits éloignés de l'emploi, fragilisés, les seniors, les jeunes et bien d'autres encore. On a ce relais, on est là pour ça et c'est vraiment l'objectif du pôle emploi, de la convention tripartite, c'est bien faire le plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et on est là, nous, acteurs, pôle emploi, acteurs du recrutement des petites et moyennes entreprises. On est là pour les aider dans ce cadre-là.
Oui, parce que la loi, c'est bien de dire on va pénaliser ceux qui ne rentrent pas dans la loi, mais si les entreprises ont des difficultés, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont modifiées actuellement au niveau de tout ce qui est social, mais il faut que les entreprises puissent s'en sortir. On a tout un volet de choses qui arrivent. Et personnellement, et là je parle peut-être en mon nom propre, une association n'a pas tous les moyens et toutes les ressources nécessaires, ce qui fait que dans des associations, on peut se retrouver en très grande difficulté justement avec des seniors.
Depuis juillet 2015, la direction de Pôle emploi a repensé l'action de chacun des conseillers en accentuant beaucoup le travail sur l'entreprise et en créant des équipes dédiées aux entreprises. Et c'est vrai que de plus en plus, nous sommes sur le terrain, nous sommes beaucoup plus proches des entreprises et nous les informons autant se faire que peu de tout ce qui se passe, des aides dont elles peuvent bénéficier. Nous sommes vraiment là pour être relais de l'information et pour les tenir informés. Et on essaye de diffuser, entre guillemets, la bonne parole, de faire en sorte d'être toujours là, leur interlocuteur privilégié, et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Idem pour les équipes de conseillers dédiées aux demandeurs d'emploi qui sont à la disposition au service des usagers demandeurs d'emploi. Mais nous, équipe entreprise, nous sommes 4 conseillères sur Bourgoin dédiées vraiment à ce travail d'information auprès des entreprises.
Pour compléter la palette de l'offre de service que Pôle emploi présente, je voulais préciser également que la région Rhône-Alpes initie et expérimente depuis 2013 un dispositif qui s'appelle plateforme de sécurisation des parcours. Donc j'en parle en connaissance de cause puisque l'ami Fizer que je pilote est en charge de la coordination départementale de ce dispositif avec la Maison de l'emploi du Pays Voironnais qui contribue également. Et ce dispositif a 2 versants, un versant de sensibilisation des entreprises sur les logiques de sécurisation de parcours des salariés, donc vraiment de sensibilisation des dirigeants des PME, TPE. Donc nous intervenons en direction d'entreprises qui n'excèdent pas 250 salariés. Et l'autre versant, c'est d'offrir une prestation de 8 heures d'accompagnement, 2 heures de diagnostic de situation professionnelle et 6 heures d'accompagnement pour mettre en marche et mobiliser des salariés justement sur les dispositifs de formation, de VAE, de sécurisation de leur parcours professionnel.
Et ça, c'est ce qui est proposé aux salariés.
C'est ce qui est proposé aux salariés. Voilà, donc ce dispositif est en marche dans l'ensemble du département et en l'occurrence dans le Nord-Isère également, puisque nous y contribuons. Depuis 2013, il est actuellement en train de se déployer sur toute l'année 2016.
Et est-ce que vous avez beaucoup de gens qui font cette démarche d'aller faire ce diagnostic ?
Alors oui, et de plus en plus, puisque nous constatons depuis l'origine de l'expérimentation, depuis 2013, nous avons déjà touché plus de 2000 salariés à l'échelle du département. Donc c'est un dispositif qui est un peu moins innovant aujourd'hui, innovateur et qui est de plus en plus connu, qui demande un travail effectivement de proximité, qu'on travaille d'ailleurs, qu'on développe avec les OPCA, les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle, et les organisations consulaires, chambres de métier, chambres de commerce de Grenoble.
Alors je vous propose une dernière pause musicale et nous allons procéder à la conclusion de cette table ronde.
Le vent souffle sur la plaine. Il a emporté les armes, le soufre a laissé place au pollen, mais rôde les cris du vacarme. Il aurait pu y avoir du soleil, c'était le printemps selon l'hiver, c'était l'été selon la haine, les calendes c'est pas leur domaine. Alors là-dessus je rejoins Prévert, tant des cerises ce que ça vaut, quand la chair est tombée par terre, démerde-toi avec les noyaux. Sous mes Mes pieds, le sol se dérobe. Je le sens couler sous mes sandales. C'est le sang chaud comme une étole que porte l'herbe après la bataille. C'était pour pas que je m'endorme sous la chaleur de quelques larmes, mais pour que jamais ne s'envole ma colère, mon général. Alors là-dessus, je rejoins Prévert dans des cerises, ce que ça vaut. Quand la chair est tombée par terre, démerde-toi avec les noyaux. Bien rire de mes vers, narguant l'enfant qui s'éveille, mais c'était les fruits de la terre et je conchis votre sommeil. Craignez les oiseaux en colère qui viendront hanter vos tombeaux pour protester contre les guerres qu'ont dépouillé les branches trop tôt. Alors là-dessus, je rejoins Prévert dans des cerises, ce que ça vaut. Quand la chair est tombée par terre, démerde-toi avec les moineaux. C'est d'Amontin chemin qui mène à la mort pour des clafoutis. Imagine la tronche des gamelles, gare aux quenottes, planquer les petits. Aujourd'hui c'est plus votre problème, aujourd'hui c'est plus votre pays. Et c'est plus ce con de Nivelle, mais d'autres noms sonnent la lalie. Alors là-dessus je rejoins Prévert dans des cerises, ce que ça vaut. Quand la chair est tombée par terre, démerde-toi avec les noyaux. Souffler sur la haine, il a emporté les larmes et la souffrance sur d'autres plaines. Malgré les cris, il ne désarme.
Vous êtes sur Couleur FM 97.1 et nous sommes au deuxième forum des initiatives pour l'emploi de Bourgoin-Jallieu, organisé par la mairie de Bourgoin-Jallieu et divers partenaires. Avec moi autour de cette table, Annick Néron pour la mairie de Bourgoin-Jallieu, Véronique Rebuffo, conseillère Pôle emploi, Agnès Rocha, directrice de la MIF, et enfin Monsieur Jean-Louis Sandry, délégué Nord-Isère pour l'association Gironalpes. Alors on va faire une petite conclusion. Les seniors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soyons positifs, quelles seraient les solutions? Alors on va commencer par vous, Madame Agnès Rocha.
Je crois que ce que j'aurais envie de retenir comme élément de conclusion, c'est qu'effectivement, un senior, par son expérience, par les compétences acquises tout au long de son parcours professionnel, présente vraiment des plus-values qui sont aujourd'hui... à faire valoir auprès d'entreprises qui, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, et on l'entendra cet après-midi avec le témoignage notamment du groupe AXA, qui aujourd'hui, effectivement, se tourne beaucoup vers les seniors pour des raisons tout à fait objectives, relatives à l'expérience, relatives à l'âge, relatives à la confiance, relatives à la maturité, à la stabilité, à l'opérationnalité, à l'humilité aussi, sans doute. Les seniors, par les fruits d'expérience, sont souvent plus humbles. Par l'esprit du compromis, la capacité de transmission, la capacité de négociation. Je dirais qu'un senior est peut-être plus tranquille au regard de sa deuxième ou dernière partie de carrière et peut offrir, moi je dis, des atouts pour les entreprises. Donc j'aurais envie d'avoir un message encourageant pour les publics seniors qui nous entendent. Prenez votre carrière en main et votre deuxième partie de carrière en main. Continuez à croire que votre portefeuille de compétences contient des richesses, contient des plus-values, et apprenez peut-être en vous faisant aider et conseiller par l'ensemble des structures de l'emploi qui sont dans le paysage, dans la proximité de vos domiciliations. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour travailler sur la reconnaissance de vos compétences, le transfert de vos compétences et travailler sur ce portfolio qui va vous aider à reprendre confiance en vous et à vous mettre en marche dans cette reconquête du travail.
Mais comment convaincre l'employeur? Parce que c'est là le plus gros travail. On peut se convaincre soi-même qu'on n'est pas bon à jeter à la poubelle, puisque certains seniors, effectivement, quand on entend effectivement 45 ans, votre carrière est finie. Comment convaincre un employeur? Prenez-moi, je suis la personne qu'il vous faut.
Je crois que quand on est très en phase avec son propre projet, et que le projet est cohérent, réaliste, et qu'il est tout à fait, je dirais, comme on dit dans notre jargon professionnel, en congruence avec ce portfolio des compétences, je pense que ça match avec un employeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir se situer au regard du marché du travail et effectivement décoder le besoin d'un employeur et arriver vraiment auprès d'un employeur comme offreur de services, offreur de compétences, mais aussi offreur de services. Et on l'entendra beaucoup, je dirais, par les personnes elles-mêmes qui témoigneront cet après-midi et qui vont nous dire qu'elles se sont positionnées et qu'elles ont pu reconquérir le travail et convaincre un employeur parce qu'elles sont arrivées au bon moment, au moment où un employeur, justement, voyait tout l'intérêt et tout l'avantage d'embaucher un senior. Et il y a des employeurs, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas du côté des employeurs une aversion particulière pour l'embauche des seniors. C'est une fausse idée, j'en suis absolument convaincue. Je crois qu'un employeur, il est d'abord dans l'attente d'une compétence qui va effectivement correspondre à une attente qui va elle-même être révéler un besoin. Et dès lors que le senior amène la compétence requise et attendue, la question de l'âge n'est plus du tout un handicap.
Véronique Rebuffo, le côté Pôle emploi, effectivement, vous recevez des employeurs et des seniors.
Oui, moi je dirais
que... Le conseil que vous donneriez à un demandeur d'emploi senior?
Agnès Rocha a expliqué beaucoup de choses, elle est tout à fait dans le vrai, nous on le vit au quotidien. Le conseil, au travers de ce que nous relatent les entreprises, c'est bien de répondre à l'offre d'emploi qui est diffusée. Je m'explique. Si un employeur recherche un chef de rang, aucun intérêt d'envoyer un CV avec un titre qui ne correspond en rien à l'emploi proposé. Vous avez été vendeur, vous avez été cuisinier, vous avez travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration. Si vous ne collez pas au profil, si vous ne collez pas ne serait-ce qu'au titre, à l'emploi recherché, ça ne donnera rien. Il faut impérativement, et vous le verrez, vous l'entendrez lors des témoignages des entreprises cet après-midi, ce qui est important, c'est que la compétence colle au poste. À un moment ou à un autre, même si on n'a pas la compétence, on a la capacité. On a ce fameux transfert de compétences. On peut répondre aux besoins, on peut se former, on peut s'adapter. Et nous, Pôle emploi, on est là aussi pour accompagner et les entreprises et les demandeurs d'emploi dans pour combler cet écart entre... Voilà, faire l'adéquation entre le poste à pourvoir et le profil. Il faut vraiment coller au poste. C'est vrai que ça nécessite de connaître l'entreprise, de connaître le poste, de ne pas faire les choses par hasard. Mais ils en témoigneront tous cet après-midi. Ça se fait très bien. Et le senior est malgré tout considéré.
Jean-Louis Sandré.
C'est très content d'entendre tout ce qui s'est dit là sur le fait que probablement on va avoir moins de seniors en recherche d'emploi dans le futur parce qu'on va travailler beaucoup plus sur la préparation et je dirais l'entretien de ces compétences acquises et du management de la carrière, si on peut utiliser ce type de terme. Néanmoins, et Annick Néron l'a malheureusement dit, c'est pas de sa faute, hein, mais il y a une situation qui est très difficile aujourd'hui parce qu'il y a des seniors en recherche d'emploi de très longue durée, en chômage de très longue durée. Alors, soyons positifs, il y a effectivement des solutions. On aide beaucoup les jeunes aujourd'hui, c'est un fait. On a des organisations qui permettent de faire du coaching, des parrainages. Eh bien, la même chose doit exister pour les seniors. Nous sommes vraiment là pour justement apporter ce complément. C'est-à-dire qu'en fait, le senior, s'il répond à une offre d'emploi comme son concurrent, entre guillemets, mais le marché du travail, c'est aussi un marché de concurrence, il va à l'échec. Pourquoi ? Parce que en fait, le responsable des ressources humaines, il a une fiche de poste et il voit une personne qui apporte des compétences, elle est plutôt jeune, bon, ça va. Et il va pas regarder le senior parce que il arrive par le même canal. Donc la concurrence doit faire qu'on va mettre d'un côté le jeune et de l'autre côté le senior. Et c'est là où nous pouvons aider le senior, c'est que il doit être le propre promoteur de son offre. C'est-à-dire que il doit faire valoir ses compétences. C'est-à-dire qu'il ne cherchera pas du travail comme les autres. il faut qu'ils puissent parler, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils décrochent un entretien, et envoyer simplement un CV, c'est pas une garantie d'obtenir des entretiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une réflexion, on n'a pas l'habitude de se vendre, entre guillemets, et bien là, il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut se faire accompagner. Tout seul, c'est très difficile. Je suis content de dire que une organisation comme l'association EG, elle est là pour apporter des solutions à ces demandeurs d'emploi seniors, et les compétences, effectivement, quel que soit le domaine d'activité, nous saurons les mettre en valeur et nous saurons aider cette personne en recherche d'emploi à le faire valoir auprès de ses futurs employeurs.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas des barrages ? Alors là, je vais mettre un pavé dans la mare. Par exemple, ne serait-ce que le salaire. Un jeune qui débute dans une carrière ne va pas demander forcément le même salaire qu'une personne qui a plus de 45 ans. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une réticence justement des employeurs par rapport à ça ?
Oui, certainement. Mais il y a aussi une réflexion à avoir en tant que senior. Est-ce qu'on recherche strictement le même salaire ? En fait, quand on est senior, il y a un certain nombre de choses qui sont acquises. On a peut-être fini de payer son logement. Les enfants sont installés. On a peut-être moins besoin d'argent. On a besoin de terminer sa carrière. On a besoin des trimestres pour avoir une carrière complète et avoir une retraite méritée. Donc, il faut une réflexion. Mais si personne ne propose cette réflexion, peut-être qu'effectivement, on entre dans une concurrence avec un salaire trop élevé et ça ne passera pas. Un travail de fond à faire en toute sérénité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « faites l'effort parce que vous êtes en difficulté ». Je fais l'effort parce que je sais que c'est bon pour moi.
Justement, casser aussi les préjugés. Alors, on pourrait peut-être terminer aussi. Est-ce qu'il y a des aides pour les entreprises qui recrutent des seniors ?
Bien entendu, oui, de plus en plus d'ailleurs. Alors, ces aides sont dites mises au service des personnes, des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que les seniors, mais les seniors en font partie. Après, chaque aide s'étudie en fonction du profil de la personne et également du fait que l'entreprise appartienne au secteur marchand ou au secteur non marchand. Voilà. Mais il existe effectivement des aides que l'on peut déclencher, que l'on peut mettre en place pour faciliter le retour à l'emploi du senior. Et il y a, entre autres, pour ne pas le citer, le contrat de génération, qui permet également de maintenir un senior en poste tout en accueillant un jeune, et que ce senior en place va former sur le métier qu'il occupe, sur le poste qu'il occupe, pour pouvoir partir tranquille et savoir qu'il y a que la relève est faite.
Voilà. Donc c'est bon de rappeler qu'effectivement il y a tous ces dispositifs. Annick Néron, vous souhaiteriez intervenir et nous faire une petite conclusion sur cet emploi des seniors justement.
Eh bien, écoutez, je souhaite vraiment remercier déjà les partenaires qui sont autour de cette table, mais tous ceux qui sont présents sur ce forum, tous ceux qui vont aussi participer à la table ronde qui aura lieu cet après-midi sur l'emploi des seniors. Je suis vraiment, vraiment heureuse de voir que cette problématique intéresse et reprise par d'autres partenaires. Pour moi, c'est essentiel, donc je me sens soutenue dans cette démarche. Je voudrais ajouter, donc avant de devoir vous quitter, que l'ACAPI a mis en place, très prochainement, un pli est en train de se créer. Et les deux publics prioritaires de ce pli seront les seniors et les femmes, les familles monoparentales, enfin les femmes isolées. Donc je pense qu'on a vraiment une vraie problématique qui est prise en charge par l'ensemble des élus, mais aussi l'ensemble des principaux partenaires. Donc nous œuvrons tous dans le même sens, et c'est vraiment quelque chose de très très positif. Donc j'espère que les auditeurs nous donnerons de l'espoir aux seniors qui nous écoutent, et puis surtout nous donnerons envie, si des entreprises nous écoutent, nous leur donnerons envie de recruter, de recevoir, d'accueillir des seniors. Merci à vous tous.
Alors je pense qu'il est bon de rappeler effectivement aussi à tous nos auditeurs qu'ils peuvent pousser la porte du Pôle emploi, la porte de la MIF, la porte de l'association EG et toute structure qui pourrait les aider effectivement à reconstruire un projet professionnel, puisque on le répète, à 45 ans, la carrière n'est pas finie. Eh bien, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette table ronde.
Merci.
Et puis, on espère que tous nos auditeurs ne seront plus réfractaires, effectivement, soit en tant qu'employeur à embaucher un senior, soit en tant que demandeur d'emploi, d'oser dire « je veux du travail, je cherche du travail et je vais en trouver ». Merci à tous. Merci à Laurent à la technique.
Léon, dans son costume tiré à quatre épingles, semble tout droit sorti d'un film des années 20. Tu le sors d'où, Léon, ce costard de bastringue? On le chambre un peu ici, tout le monde l'aime bien. Léon a rendez-vous ce soir avec une gazelle. Elle doit être jolie, vu les efforts qu'il a fait. Léon a rendez-vous, il nous avoue qu'elle est belle. Si belle qu'il hésite encore à y aller. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire danser. Depuis que la Raymonde, paix à son âme, a laissé à Léon le zinc en accoudoir. Il en a bu des coups à la santé de sa femme. Il en a pris des cuites, alors le voit dedans ce beau costume qui devait être à son père. Y a comme de l'émotion, on a envie de l'aider. Assure comme un chef, Léon, tu sais y faire. On l'embrasse sur le caillou, il a l'air gêné. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire danser. On lui a mis dans les bras un bouquet de marguerites. Ajuster la cravate, il est beau comme un sous-neuf. Sur qu'elle va succomber dans tes bras, la petite. Hé Léon, c'est quand que tu nous présentes ta nouvelle meuf? Léon s'est tiré sous les holas du bistrot. Il en menait pas large, mais il s'est pas retourné. On l'a suivi du regard jusqu'à l'entrée du métro. Il y avait dans son rancard un côté ce soir ou jamais. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire danser. Le lendemain, au bistrot, il avait déserté le poste. Et pour un type comme lui, autant dire que c'est pas rien. On n'a jamais su comment elle était belle, la belle gosse, qu'a volé notre poteau et laissé du chagrin. Si un jour tu reviens, Léon, ici, t'auras ta place. J'espère que tu nous raconteras, ouais, à ta façon. On rira comme avant, tu sais, elle manque ta grimace. Et puis t'as laissé une ardoise, alors fais pas le con. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut l'emmener se balader, Léon. Il faut la faire danser, il faut la faire valser. Il faut la faire chanter, Léon. Sur un petit air d'accordéon, Léon. Il faut la faire sourire, Léon.